Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le prix Nobel de la paix a été décerné ce matin au premier ministre réformateur éthiopien Abiy Ahmed, manière de saluer tout à la fois le travail crucial de son gouvernement en faveur de réformes susceptibles de transformer un pays longtemps livré à l'autoritarisme, mais aussi et surtout pour avoir été l'artisan d'une réconciliation spectaculaire avec son voisin érythréen.
Dans votre journal également, sur fond de vives tensions entre Téhéran d'un côté et Riyad de l'autre, un tanker iranien a été touché ce matin par deux frappes de missiles présumées en mer Rouge.
Il s'agit du premier incident dans lequel un navire iranien est visé depuis une série d'attaques dans le Golfe. Les Européens vont examiner la semaine prochaine la possibilité de sanctions contre la Turquie en représailles à l'offensive menée depuis mercredi dernier contre la milice kurde des YPG dans le nord-est de la Syrie.
Lubrizol a accepté d'indemniser les agriculteurs victimes des retombées polluantes après l'incendie de l'usine chimique de Rouen.
450 éleveurs laitiers devraient ainsi être concernés par un fonds de solidarité estimé pour l'instant à 50 millions d'euros. Renault annonce c'est ce matin que son directeur général Thierry Bolloré était démis de ses fonctions. Le constructeur qui espère ainsi tourner la page de l'ère Carlos Ghosn. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Robert Votard, climatologue au CNRS. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il nous alerte sur la pollution lumineuse et appelle à retrouver un ciel avec des étoiles. Le géographe Samuel Chalea, auteur de Sauver la nuit aux éditions Premier Parallèle et la présidente directrice de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne, Anne-Marie Ducroux, sont nos deux invités aujourd'hui.
Merci et à tout à l'heure. Comme chaque année, les spéculations à les bons trains. Cinquième étape de la saison Nobel 2019 et sans doute le plus attendu. Donc le prix Nobel de la paix a été finalement décerné ce matin à Oslo au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors si les partisans de la jeune Égérie suédoise de la lutte contre le changement climatique Greta Thunberg seront sans doute déçus ce matin, le président quadragénaire du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique figurait lui aussi parmi les ultra favoris. Et pour cause, puisque non seulement il est parvenu à secouer jusque dans ses fondations un régime ankylosé par plus de 25 années d'exercice autoritaire du pouvoir, mais plus encore, Nathanaël, parce que 6 mois à peine après son investiture, eh bien, il a réussi donc à conclure la paix avec le voisin, l'Érythrée.
Oui, alors Abiy Ahmed est né en 76, il a 43 ans, il est Oromo, c'est l'ethnie la plus importante du pays. Il a un CV long comme le bras, il est passé par l'armée, a fait des études informatiques, un diplôme de cryptologie, il est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, un doctorat de philosophie, c'est vous dire. Il est donc élu en 2018 et aussitôt élu, il lève l'état d'urgence, il libère les prisonniers politiques, il libère la censure sur le net, mais encore plus impressionnant, vous l'avez dit, il ne lui faut qu'une poignée de mois pour faire la paix avec son grand ennemi, l'Érythrée. Quelques mois, alors que les deux pays s'affrontaient dans le sang depuis des décennies, on parle d'un conflit qui a fait quand même 80 000 morts. Au cœur de la bataille, des conflits de territoire, des conflits autour de la gestion de l'eau dans la région, des conflits politiques, mais voilà, tout a changé avec son arrivée. Il estime que son pays ne peut évoluer sans une paix durable avec ses voisins. Alors il est allé chercher des financements en Arabie Saoudite, il a négocié avec les Égyptiens la gestion du Nil, il a accepté de reconnaître avec son ennemi érythréen la frontière issue de vieux accords de 2002. Bilan, la signature d'un accord de paix historique et rapide. Seul ombre au tableau, sa réussite régionale se heurte à des résistances en interne. L'Éthiopie doit faire face à des violences communautaires très fortes. Il a aussi échappé à plusieurs tentatives d'attentats.
Merci Nathanaël Charbonnier. Un tanker iranien touché par de probables frappes de missiles en mer Rouge. L'attaque a eu lieu ce matin. Elle a aussitôt déclenché un incendie à bord du navire et provoqué une fuite de pétrole. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Alors une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit ou non d'un acte terroriste. Seule certitude, Nabila, cet incident intervient après toute une série d'attaques dans le Golfe.
Voilà, cet incident à une centaine de kilomètres du port saoudien de Jeddah survient sur fond de vives tensions entre l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite et son allié américain de l'autre. Washington et Riyad avaient le mois dernier accusé Téhéran d'être derrière les attaques qui ont fortement endommagé des sites pétroliers du royaume et obligé Riyad à réduire sa production d'or noir. Après ces attaques, on se souvient que les États-Unis avaient affirmé être prêts à riposter et avaient annoncé l'envoi de renforts militaires dans la région. Il y avait là la crainte d'un affrontement militaire avec l'Iran, alors que Washington et Téhéran avaient déjà frôlé l'affrontement direct en juin. L'attaque présumée de ce matin survient aussi après la saisie de plusieurs tankers par l'Iran ces derniers mois dans la région du Golfe et de l'arraisonnement en juillet au large de Gibraltar d'un tanker iranien autorisé à repartir le 15 août. Pour le moment en tout cas, et après l'incident de ce matin contre un tanker iranien, il n'y a pas de surenchère verbale. Le ministère iranien des Affaires étrangères se contente d'affirmer que la responsabilité de cet incident, y compris la sérieuse pollution de l'environnement, incombe aux auteurs de cet acte irresponsable. L'Arabie Saoudite n'a pas réagi. La Chine s'est inquiétée d'une situation très complexe et sensible dans la région et espère que toutes les parties concernées feront preuve de retenue et protégeront la paix et la stabilité dans le Golfe.
Merci Nabila Hamel. Après avoir chamboulé la politique du Moyen-Orient, en particulier en se retirant de l'accord sur le nucléaire iranien, voilà que Donald Trump tente à présent de trouver un moyen de renverser les conséquences éminemment prévisibles de ces atermoiements autour de la question syrienne, cette fois-ci en l'occurrence le bombardement par les forces turques des combattants kurdes hier. Le chef de la Maison-Blanche a évoqué la possibilité pour Washington de jouer les médiateurs en vue d'un accord entre les deux parties. De leur côté, les cinq pays européens siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU avaient réclamé un peu plus tôt l'arrêt de l'action militaire unilatérale entreprise par la Turquie, enfin par la voix de la secrétaire d'État française aux affaires européennes. L'UE a dit ce matin qu'elle allait examiner la semaine prochaine la possibilité de sanctions contre Ankara. Toujours est-il que de part et d'autre de la frontière entre la Turquie et la Syrie, d'énormes nuages de fumée continuent d'obscurcir le ciel, tandis que des dizaines de milliers de personnes fuient les raids aériens et les tirs d'artillerie des forces armées turques. Quant au premier bilan, ils font état d'une quarantaine de morts en moins de 48 heures. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors pour l'heure, la multiplication des condamnations diplomatiques semble impuissante à tordre le bras armé du président Erdogan et surtout la marge de manœuvre de l'Union européenne, Louise en particulier, semble limitée.
Oui, marge de manœuvre limitée, quoi qu'en dise le gouvernement français et sa secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, très affirmative ce matin chez nos confrères de France Inter.
Évidemment que c'est sur la table. Vous imaginez bien qu'on va pas rester impuissant face à une situation qui, non seulement est absolument choquante pour les civils qui sont soumis à ça, qui est choquante pour les forces syriennes qui ont depuis 5 ans accompagné les travaux de la coalition, mais c'est aussi surtout choquant pour la stabilité de la région. La condamnation, elle est ferme, mais elle n'est pas juste ferme dans les mots. On va agir. Vous imaginez bien qu'on va pas rester là autour de la table en se disant, bah voilà, on constate que c'est compliqué.
En filigrane, la crainte d'une résurgence de l'État islamique sur les décombres provoqués par l'offensive turque. Des milliers de combattants de l'EI détenus par les Kurdes risquent en effet de retrouver la liberté à la faveur des combats. Alors les Européens vont examiner la semaine prochaine la possibilité de sanctions contre Ankara, vous l'avez dit, mais lesquelles? Sachant que la Turquie est membre de l'OTAN, un pays ami donc, des mesures de rétorsions économiques pourraient être envisagées. La Norvège et la Finlande ont d'ores et déjà décidé de suspendre toute nouvelle exportation d'armes vers la Turquie. La France fera-t-elle de même? Question non négligeable, même si la Turquie n'est pas son plus gros client. Par ailleurs, l'ex-président François Hollande propose une suspension de la participation de la Turquie à l'OTAN, mais cette décision n'appartient évidemment pas au seul pays européen. Bref, tout est sur la table, affirme Amélie de Montchalin, mais les marges de manœuvre semblent minces. La Turquie dispose en effet d'une arme de dissuasion massive vis-à-vis de l'UE. Ces 3 600 000 migrants qu'elle retient sur son sol pour qu'ils n'atteignent pas nos rivages suite à un accord conclu en mars 2016 qui a considérablement tari les flux migratoires sur la voie orientale. Alors le président du Conseil européen Donald Tusk assure aujourd'hui que l'UE n'acceptera pas le chantage du président turc et considère ces menaces comme absolument hors de propos. Il n'empêche, cette possible réouverture de la frontière pèse très lourd dans la balance et pourrait bien lier les mains des Européens.
Merci Louise Baudet. Elle ne pouvait pas être ministre à Paris et elle ne siégera pas davantage à Bruxelles. Hier, le Parlement de Strasbourg a rejeté à une large majorité la candidature entachée par le soupçon de la Française Sylvie Goulard au poste de commissaire au marché intérieur. Alors faut-il y voir d'abord une victoire des eurodéputés dans leur lutte pour s'émanciper des États ou bien un échec personnel pour Emmanuel Macron qui avait présenté cette candidature? Toujours est-il que cette nomination ratée constitue en quelques mois seulement la deuxième erreur de casting sur le plan européen pour le locataire de l'Élysée après avoir échoué à imposer Nathalie Loiseau à la présidence du troisième grand groupe politique au Parlement de Strasbourg. Maïwenn Bordron, bonjour.
Bonjour.
Désormais, toute la question est donc de savoir qui pourrait remplacer Sylvie Goulard pour représenter la France et la réponse Maïwenn est a priori pas franchement évidente.
Oui, le temps presse pour Emmanuel Macron. officiellement. Il lui reste jusqu'à jeudi prochain pour proposer un ou une nouvelle candidate. Les auditions doivent se terminer à cette date-là, avant un vote sur l'ensemble de la commission le 23 octobre et une entrée en fonction le 1er novembre. Autre impératif, trouver une candidate afin de respecter l'engagement de la future présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen s'est en effet engagée à avoir un collège parfaitement paritaire. Plusieurs noms de femmes circulent donc pour remplacer Sylvie Goulard, à commencer par celui de Florence Parly. La ministre des Armées a la confiance d'Emmanuel Macron et celle d'Ursula von der Leyen, elle-même ex-ministre de la Défense en Allemagne. Florence Parly a donc le profil idéal, d'autant plus qu'elle connaît les enjeux industriels après son passage à Bercy et chez Air France. Oui, mais voilà, encore faut-il qu'elle veuille y aller. Interrogée hier à ce sujet, Florence Parly a balayé cette hypothèse en affirmant qu'il ne fallait jamais croire les rumeurs. Un autre nom qui revient un peu moins, mais qui a été évoqué, Amélie de Montchalin, l'actuelle secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Un cas de figure peu probable. Les discussions entre le président Macron et Ursula von der Leyen ne me concernent pas du tout, a-t-elle déclaré ce matin. Pas sûr donc qu'Emmanuel Macron réussisse à respecter l'objectif de parité fixé par Ursula von der Leyen. Il lui faudra donc trouver un candidat. Chez les hommes, le nom de Bruno Le Maire circule, sauf que l'actuel ministre de l'économie n'est pas candidat, nous confirme ce matin son entourage à Bercy. Autant dire que le casse-tête pour Emmanuel Macron est loin d'être résolu.
Merci Marguerite Bordron. Et puis précisons que cet été déjà, Emmanuel Macron avait beaucoup tergiversé puisqu'il avait officialisé la candidature de Sylvie Goulard le 28 août, soit deux jours après la date limite qui avait été fixée. Moralité et exemplarité, nul doute que ces mots ne manqueront pas de résonner une fois de plus aujourd'hui à l'occasion cette fois-ci de la visite à l'Elysée du Premier ministre hongrois Viktor Orban, lequel est aujourd'hui régulièrement accusé de porter atteinte à l'état de droit et à l'équilibre des pouvoirs dans son pays. Parmi les très nombreux griefs invoqués par ses adversaires, Viktor Orban est notamment accusé d'avoir remodelé à son avantage les circonscriptions et l'ensemble du système électoral au point de transformer l'alternance politique en véritable course d'obstacles pour l'opposition. Pour autant, et surtout pour la première fois depuis une décennie, voilà que le parti national conservateur du Premier ministre se retrouve fragilisé. En l'occurrence, il n'est pas assuré d'une victoire écrasante dans la capitale où le maire sortant affrontera dimanche un candidat adoubé par les principaux partis d'opposition. En surfant non seulement sur de généreux transferts sociaux, mais aussi un discours nationaliste flamboyant, les conservateurs au pouvoir en Pologne devraient aisément remporter ce week-end les élections législatives. En revanche, la majorité absolue pourrait leur échapper. Ce sera là, a priori, la seule forme de succès envisageable pour l'opposition. En Roumanie, après moins de 3 années au pouvoir, le gouvernement de gauche a fini par être renversé hier par les parlementaires, comme attendu. Les sociaux-démocrates accusés tout à la fois de saper l'état de droit dans leur pays, mais aussi de participer à l'isolement de la Roumanie sur la scène européenne par leurs critiques répétées des instances de l'UE n'auront pas survécu au vote de la motion de défiance. Le président a annoncé qu'il allait consulter dès aujourd'hui les différents partis politiques afin de désigner un nouveau Premier ministre, lequel devrait très probablement être issu des rangs de l'opposition de centre-droit. Le Premier ministre britannique et son homologue irlandais ont quelque peu ravivé hier l'espoir d'un accord sur le Brexit d'ici la date fatidique du 31 octobre. Les deux hommes ont assuré entrevoir un possible compromis sur la question clé de la frontière irlandaise, sans pour autant préciser comment ils comptaient concrètement sortir les négociations de l'ornière. Ce matin, c'était au tour des deux négociateurs européens et britanniques de se retrouver à Bruxelles pour évaluer les chances de déblocage des discussions. Michel Barnier a simplement indiqué avoir eu un entretien, je cite, « constructif » avec son homologue. Une première victoire, c'est ainsi que la présidente de la FNSEA a salué ce matin la décision de Lubrizol d'accepter d'indemniser les agriculteurs victimes des retombées polluantes après l'incendie de l'usine chimique de Rouen. Cet accord sera officialisé dès aujourd'hui à l'occasion du déplacement à Rouen des ministres de la Santé, de l'Agriculture et de la secrétaire d'État à l'Environnement. Anne Lorchouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors au total, près de 3800 exploitations laitières devraient être concernées par cette indemnisation. Comment et par qui sera abonder alors ce fonds de solidarité?
Alors d'abord, ce fonds, c'est le FMSE, le Fonds National Agricole de Mutualisation du Risque Sanitaire et Environnemental. Tous les agriculteurs y cotisent depuis sa mise en place en 2010 et ces cotisations, avec l'argent de l'Europe et de la France, viennent l'abonder. Ce financement public représente 65% du total de ses ressources, aux trois quarts couvertes par Bruxelles. La nouveauté, c'est que Lubrizol a accepté de l'abonder, ce fonds, alors que l'enquête en cours n'a pas pour l'instant établi de responsabilité. Mais il faut aller vite et les pertes subies par les agriculteurs des alentours sont déjà en train de grever leur trésorerie. Le lait de certains n'est plus collecté, les légumes des autres n'ont pas pu être vendus, notamment les agriculteurs en circuit court les plus touchés à court terme. Et puis, il y a bien sûr les effets de long terme qui dépendront du résultat des analyses complémentaires en train d'être menées. Écoutez Joël Limousin, le président de ce FMSE, tout à l'heure sur France Info.
Aujourd'hui, il y a une estimation qui est faite à 50 millions d'euros, mais bien entendu, ce fonds devra être abondé au fur et à mesure des besoins en fonction des expertises qui vont être réalisées. Pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'on ait pu trouver un opérateur qui reconnaît aujourd'hui qu'il y a un préjudice et qu'ils sont prêts aujourd'hui à payer.
Alors, de l'argent avait déjà été mobilisé, notamment en direction des producteurs laitiers, très nombreux dans la région, et via le CNIEL, qui représente la filière lait, mais cet argent devra lui être remboursé lorsque les indemnisations seront finalement versées. En attendant, la collecte de lait est toujours stoppée pour 500 fermes laitières. Plus de 700 000 litres de lait sont jetés chaque jour, toujours selon le CNIEL.
Merci Anne-Laure Chouin. Après plusieurs jours de rumeurs sur un probable remaniement à sa tête, Renault avait convoqué ce matin un conseil d'administration dont l'issue semblait en réalité d'ores et déjà connue, la révocation de son directeur général Thierry Bolloré. À 10h30, l'affaire était entendue. Exit donc le dauphin de Carlos Ghosn, lequel pourtant dans une ultime tentative pour sauver sa peau, avait entrepris une démarche peu commune hier en dénonçant dans une interview au journal Les Échos un coup de force inquiétant et un risque de déstabilisation. Alors Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors un triumvirat a aussitôt été nommé pour assurer l'intérim, le temps de mener un processus de désignation d'un nouveau directeur général. Quoi qu'il en soit, Anne-Laure, avec ce remplacement donc à la tête du constructeur, eh bien, Renault espère cette fois-ci tourner définitivement la page de l'ère de son ancien PDG déchu, Carlos Ghosn.
Oui, puisque Thierry Bolloré, c'était l'un des derniers hauts dirigeants incarnant les années Ghosn, entré au sein du groupe en 2012 et promu numéro 2 début 2018. C'est lui qui assure l'intérim après l'arrestation de Carlos Ghosn à Tokyo il y a presque un an. Et quand Jean-Dominique Senard prend les rênes du groupe en janvier, il garde de Thierry Bolloré à ses côtés pour incarner une forme de continuité. On parle alors de tandem. Mais la mayonnaise ne prend pas, les relations se dégradent. Ajoutez à cela des résultats financiers qui ne sont pas au rendez-vous, un bénéfice qui a plongé de 50% au premier semestre. C'est d'ailleurs cette dernière raison qui est officiellement invoquée par le conseil d'administration pour justifier son départ. Alors Thierry Bolloré, lui, estime n'avoir fait aucune faute sur le plan opérationnel. Il rappelle d'ailleurs que Renault est l'un des rares constructeurs automobiles à ne pas avoir émis d'avertissement sur résultat. Du côté de l'État, actionnaire à hauteur de 15%, on soutient le choix fait par Jean-Dominique Senard. L'important étant, dit-on, non les questions de personne, mais la feuille de route confiée au patron du groupe. Restaurer la confiance avec son partenaire Nissan et renouveler la gouvernance. Reste maintenant à trouver un successeur à Thierry Bolloré pour assurer l'avenir de ce fleuron automobile français et dialoguer avec Nissan, qui a lui aussi fait table rase du passé avec la récente éviction de son directeur général à l'origine des révélations qui ont fait tomber Carlos Ghosn.
Merci Anne-Laure Jumet. Sans transition, dans un référé publié hier et intitulé « Les fins de carrière, un risque de précarité pour les seniors exclus du marché du travail », la Cour des comptes dresse un bilan implacable. Après 52 ans, le chômeur a peu de chances de retrouver du travail. Selon la Cour, cette baisse brutale des perspectives de retour à l'emploi résulte pour l'essentiel des réticences des entreprises à recruter des salariés âgés. C'était il y a quelques semaines à peine, le Parlement adoptait définitivement le projet de loi énergie et climat, projet prévoyant d'atteindre la neutralité carbone en France à l'horizon 2050. Comment ? En réduisant notamment la consommation des énergies fossiles, mais aussi la part du nucléaire dans notre production électrique. Et pour atteindre donc ces objectifs, eh bien, il est demandé aux États membres de l'UE de produire davantage d'électricité d'origine éolienne et solaire. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Robert Votard, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace au CNRS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Pierre Neveu.
Bonjour.
Première question monsieur Votard, la France est aujourd'hui le quatrième pays éolien en Europe par sa puissance, un parc qui produit 5% de notre électricité. Les spécialistes de la filière expliquent que l'on est sur le bon chemin. Êtes-vous du même avis ?
La France a pris le chemin effectivement des énergies renouvelables d'une manière générale et de l'éolien, mais la France part, contrairement à d'autres pays en Europe, avec une énergie électrique, une production d'électricité qui est déjà fortement décarbonée du fait de la production nucléaire. Donc c'est en fait la part qui est non nucléaire qu'il faut maintenant décarboner, tout en, bien sûr, diminuant la consommation d'énergie carbonée elle-même.
Question de Pierre Neveu.
Alors, en 2023, objectif en France, selon les responsables de la filière éolienne, il y aura 1600 éoliennes. Est-ce que c'est un bon seuil acceptable ?
Alors, le nombre d'éoliennes importe peu. Ce qui compte, c'est plusieurs choses. D'une part, une production décarbonée d'électricité. Et d'autre part, une préservation de l'environnement aussi visuel et de l'environnement en général. Les éoliennes elles-mêmes ne sont pas demandent des ressources. Hein, elles demandent des ressources en métaux, en terres rares, en béton, etc. Donc elles ont beau être pratiquement décarbonées en termes de production, en termes d'investissement, c'est quand même des ressources non négligeables.
Alors vous avez travaillé avec votre équipe du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement sur l'impact des éoliennes sur le terrain. Et ce qui est pour le moins surprenant en lisant vos documents, c'est d'apprendre que ces fermes éoliennes participent à leur façon au réchauffement de l'air. Expliquez-nous.
Alors, il faut être très prudent lorsqu'on a ces chiffres et ces conclusions. D'abord, ces chiffres sont faibles. L'impact, on n'a rien sans rien. Lorsqu'on met quelque chose, lorsqu'on met un dispositif sur la Terre, on modifie l'environnement. Là, l'étude que nous avions faite il y a quelques années montre que finalement, si on installe le potentiel éolien en Europe souhaité pour 2020, 2030, 2050, eh bien nous allons avoir un petit impact sur les températures. Cet impact, il est en fait dû au fait que les éoliennes brassent l'air, elles brassent l'air, donc elles ramènent de l'air chaud en altitude vers le sol, particulièrement la nuit, mais elles ne modifient pas le réchauffement global. Hein, donc elles n'ont pas d'influence globale, elles ont une influence un petit peu locale au voisinage des éoliennes et puis un petit peu en Europe aussi.
Alors on rappelle qu'un pylône d'éolienne, c'est plus de 100 mètres de haut, jusqu'à 190 mètres de haut aujourd'hui.
Oui.
Et parmi les détracteurs, bon, on a dit il y a les riverains, la protection de l'île des oiseaux, puis aussi l'aviation civile, l'armée à cause de la hauteur de ces mâts. Et puis on apprend aussi que le mouvement des rotations des pales a des impacts sur la propagation des ondes émises.
Tout à fait, ça génère des perturbations, ça perturbe également les radars météo. Donc il y a des implications qui sont à maîtriser, à contrôler. Donc on n'est pas dans un environnement isolé du reste du monde, et ça a des implications. Donc lorsqu'on fait des plans effectivement de développement d'éolien, ce qu'il faut faire, puisque on doit arriver à une énergie décarbonée totalement en 2050 si on veut avoir un climat qui soit supportable, on est obligé de tenir compte de tous ces facteurs, de tous ces paramètres.
Alors on est au point sur le parc éolien terrestre, on va le dire, mais pour ce qui est du offshore, c'est-à-dire des éoliennes en mer, on est très en retard en France. Il y a 11 projets, c'est cela ?
Voilà, il y a des projets, il n'y a pas de production aujourd'hui en France. En Europe, c'est pas beaucoup plus développé non plus, donc l'éolien offshore reste largement du futur. Bien sûr, l'éolien offshore va perturber moins les activités sur la Terre, un petit peu plus les activités sur la mer, bien sûr, et être assez prometteur, avec une énergie un petit peu plus constante, même si on aura toujours des pannes de vent et des...
Il peut y avoir de plus en plus de pannes de vent à l'avenir ? Vous qui êtes un spécialiste du climat.
La question est posée, elle n'est pas résolue malheureusement. Nos modèles de climat sont encore un petit peu incertains sur cette question-là. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a plutôt une tendance à la baisse des vents, particulièrement dans les régions méditerranéennes.
Une toute dernière question.
Toute dernière.
Rapide. L'Union européenne s'est donné comme objectif de produire un cinquième de son énergie à partir des sources renouvelables, avec un objectif de 20% dès l'an prochain. La Cour des comptes européenne demande aux États de soutenir ces filières éoliennes, solaires. C'est vraiment un impératif pour y arriver?
Alors, les chiffres économiques me dépassent un petit peu, mais il faut, la Chine investit, les pays investissent dans ces technologies, il faut que l'Europe investisse également fortement et la France avec. Voilà, en prenant en compte les autres paramètres.
Merci Robert Votard, climatologue, je le rappelle, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace au CNRS d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Pierre Neveu. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Généralement couvert et humide au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg, ensoleillé au sud quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.